quand j'étais jeune chrétien et que je lisais la Bible, j'avais souvent l'impression que l'Ancien Testament me présentait un Dieu différent de celui du Nouveau Testament. J'en étais presque venu à croire personnellement qu'il y avait un Dieu de l'Ancien Testament puis un Dieu du Nouveau Testament. Si on veut être honnête, là, je pense que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, encore, ont des questions qui leur languinent en dedans à ce propos-là. Beaucoup de choses qu'ils ne comprennent pas, mais qu'ils acceptent simplement par la foi à défaut d'autres choses. On veut pas que les autres pensent qu'on est incrédule. On veut pas penser pour des gens qui mettent la Bible en doute. Ça fait qu'on accepte tout ça sans en parler à personne, bien souvent. Honnêtement, je pense qu'on a tous, à un moment ou à un autre de notre vie chrétienne, éprouvé des certaines difficultés à concilier les deux images de Dieu qui nous étaient présentées dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Dieu ne change pas, nous dit l'apôtre Jean. D'un autre côté, on n'est pas idiot non plus. On voit bien que certaines paroles ou certaines actions que Dieu a posées sous l'Ancien Testament semblent entrer en conflit ou en contradiction quand on les compare avec le caractère de Jésus-Christ, qui est l'image même du caractère de Dieu, nous dit ailleurs l'Écriture. Alors j'ai fait ce message-là pour tâcher d'expliquer un peu pourquoi on remarque des différences dans le caractère de Dieu quand on compare les deux testaments. Dans Jacques 1, 16, 17, ça dit « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Bon. Le fait que Dieu ne change pas, comme le dit Jacques, ça veut dire simplement, d'une part, que Dieu est toujours aussi saint sous la Nouvelle Alliance qu'il l'était sous l'Ancienne. D'accord jusque-là? Il faut aussi se rappeler que Dieu était également un Dieu d'amour sous l'Ancienne Alliance, même si cette vérité-là était voilée par la loi. Quand on lit le Deutéronome, par exemple, on réalise que la loi, c'était quelque chose de très menaçant. L'état d'esprit engendré par la crainte de Dieu avait pour ministère de préparer lentement le peuple de Dieu, à aspirer à avoir une meilleure relation avec Dieu. Le but de l'Ancien Testament n'était pas de révéler l'amour de Dieu, mais principalement celui d'inculquer à l'homme la notion du péché, puis de lui faire sentir sa culpabilité devant Dieu, de façon à ce qu'il apprécie mieux, plus tard, sa grâce. L'amour puis la grâce de Dieu était gardé pour être pleinement révélé plus tard sous le Nouveau Testament. Il est bien important que le nouveau croyant soit bien prudent quand il lit l'Ancien Testament, parce qu'il peut sortir de là avec une fausse conception de Dieu qu'il risque de traîner avec lui toute sa vie puis qu'il va lui faire du mal. Je le sais par expérience qu'en servant Dieu selon la théologie de l'Ancien Testament, le croyant va se jeter lui-même dans bien des tourments qu'il peut le faire. Puis croyez-moi, j'en sais quelque chose. Je vais vous dire pourquoi tantôt. Dieu n'a pas vraiment changé sous le Nouveau Testament. C'est la théologie qui a changé. Comprenez-vous la différence? Puis elle a tellement changé, là, la théologie, que Dieu a dû révéler tout un nouveau corps de doctrine à des prophètes comme Paul, puis aux autres apôtres, pour nous démêler tout ça. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on garde pas? Qu'est-ce qui est plus bon, qu'est-ce qui est encore bon? Etc., etc. Quand l'apôtre Jacques nous dit que Dieu n'a pas changé, ça ne veut pas dire que l'image que l'Ancien Testament nous donnait de Dieu est encore bonne aujourd'hui, mais il faut comprendre le contraire, je pense, c'est-à-dire que le Dieu de grâce, d'amour et de miséricorde qui nous est présenté aujourd'hui dans le Nouveau Testament a toujours été le même depuis l'Ancien Testament. Comprenez-vous? Même si ce n'était pas évident à cette époque-là. Alors, le Nouveau Testament restera toujours la partie la plus importante de la Bible pour le croyant. Le Nouveau Testament a plus d'autorité que l'Ancien Testament parce qu'il nous donne la pleine révélation du plan et du caractère de Dieu. C'est principalement par le Nouveau Testament que le croyant doit vivre. On n'est pas des judaïsants chrétiens. On n'est pas des gens qui suivent la loi puis qui sont chrétiens en même temps. Là. Comprenez-vous ce que je veux dire en disant judaïsants chrétiens? On n'est pas des judaïsants chrétiens, on est des chrétiens, point final. Si vous arrivez d'éprouver de la confusion en ce que l'Ancien Testament dit, puisque vous lisez dans le Nouveau Testament, bien, votre choix est très simple. Vous êtes un croyant de la Nouvelle Alliance, alors attachez-vous à ce que le Nouveau Testament vous dit. Si vous ne comprenez pas, acceptez seulement par la foi les révélations du Nouveau Testament, même si vous avez de la difficulté à comprendre pourquoi elles sont différentes de celles de l'Ancien Testament, puis vous allez vivre bien plus heureux et bien moins mêlé. Quand Jean a dit « Ne vous y trompez pas » au début de son texte maintenant, à propos de quoi il ne faut pas nous tromper? Mais premièrement, à propos des dispositions bienveillantes de Dieu envers ses enfants. Dieu est amour. Dieu n'est pas le Dieu qui tend des pièges à ses enfants, juste pour voir s'ils vont rester fidèles, comme on le voyait si souvent sous l'Ancienne Alliance. Dieu agit plus comme ça. Pourquoi? Ben parce qu'en Jésus-Christ, c'est plus nécessaire. En lui, on est passé de la mort à la vie. Alors, on n'a plus besoin de craindre ce genre de mise à l'épreuve-là. Si vous mélangez la théologie de l'Ancien et celle du Nouveau Testament, vous allez être tout mêlé tantôt. Il y a des centaines de chrétiens qui sont présentement mêlés, puis ils n'en sont même pas conscients en plus. Par exemple, dépendant jusqu'à quel point vous êtes enlisé là, dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose qui va aller mal dans votre vie, vous allez peut-être commencer à croire que vous êtes frappé ou puni par Dieu pour des péchés quelconques, comme on le voyait sous l'Ancien Testament. Moi, j'ai rencontré un chrétien comme ça. Il avait pourtant au moins 20 ans dans le Seigneur. Un jour, il descendait l'escalier extérieur d'un deuxième étage. Je pense qu'il livrait du lait. C'était un livreur de lait. Bon, il s'est enfargé, là, puis il est tombé en bas des marches. Il s'était fait très mal. Je pense qu'il m'a dit que c'était fait les deux côtes, si ma mémoire est exacte, ou quelque chose comme ça. En me racontant cette histoire-là, il me dit que c'est Dieu qui l'avait puni pour un péché qu'il avait dans sa vie. Moi, je peux juste pas accepter ça. Si on vivait sous l'Ancien Testament, là, je l'accepterais. Mais quand je lis le Nouveau Testament, je ne peux plus croire une chose pareille. Si vous croyez que le Dieu que vous servez est un Dieu qui pousse les gens en bas des escaliers, qui leur brise les côtes pour les punir de leur faiblesse, c'est votre affaire. Hein? Mais vous ne me ferez pas manger cette salade-là à moi, par exemple. J'ai beaucoup souffert de ce genre de confusion-là quand j'étais plus jeune dans le Seigneur. Je me souviens, quand j'avais à peu près 2 ans dans la foi, le pasteur de l'Église prêchait très souvent sur l'asile. Non, je m'excuse, il ne prêchait pas sur l'asile. Il prêchait sur l'obligation absolue de lui payer sa dîme. Il servait beaucoup de versets de l'Ancien Testament. Mais forcément, parce qu'il n'y en a pas vraiment dans le Nouveau. Il n'avait pas le choix tellement. Il nous disait que si on ne payait pas notre dîme, on volait Dieu, puis qu'on allait devoir lui rendre des comptes pour ça un jour. Alors, quand des gens qui ne donnaient pas leur dîme, pour une raison ou pour une autre, sortaient de là, de ces réunions-là, ils avaient l'impression qu'ils avaient perdu l'amour et la faveur de Dieu. On nous disait que Dieu était là, dans notre vie, là, caché dans un coin quelque part, là, puis attendait le bon moment pour nous frapper à cause de notre infidélité. Ça, c'était la belle atmosphère dans laquelle on vivait. Dans cette église-là, il y en a 2 ou 3 qui ont fait une dépression à cause de ce pasteur-là, puis il y en a au moins 15 ou 20 personnes qui sont parties de là parce qu'ils n'en pouvaient plus. C'est ce qu'on récolte souvent quand on essaie de faire vivre les gens sous l'Ancien Testament. J'espère que ce ne sera jamais votre expérience. Parce que c'est pas drôle. Une autre fois, il y a à peu près 5 ans de ça, moi j'étais de ceux qui croyaient que tous les chrétiens devaient craindre les châtiments de Dieu pour chaque péché, exactement comme l'enseignait l'Ancien Testament. La crainte de Dieu, hein, qu'on entend ça souvent, mais c'est tellement mal interprété. Je savais que Dieu ne châtiait pas pour chaque péché, mais je croyais que c'était une possibilité qui était toujours là, suspendue au-dessus de ma tête. À cette époque-là, j'étais en santé spirituellement comme je ne l'avais jamais été depuis longtemps. J'avais bien des petites choses à me reprocher, comme tous les chrétiens, là, mais rien de grave au point d'avoir peur d'être frappé par Dieu, absolument pas. Un soir, je venais juste de finir là, de passer à peu près 1 heure et demie dans la prière. J'avais eu un bon temps avec Dieu, en plus. Là, je monte au 2e étage pour regarder la TV, puis au moment où je m'y attendais le moins, là que je fais une crise d'asthme. Je n'avais jamais fait ça de ma vie, puis laissez-moi vous dire que j'ai complètement paniqué. À peu près 2 heures plus tard, le pire était passé. Mes poumons, quand même, sont restés engorgés là, de sécrétions, comme si j'avais une bronchite, pendant à peu près 1 mois ou 2. Si c'est pas 3. Laissez-moi vous dire que pendant tout ce temps-là, j'ai vécu un véritable cauchemar. Un temps de grande crise, spirituellement parlant. À cause de certains versets de l'Ancien Testament, justement, j'étais sûr que c'était Dieu qui me châtiait, là, à cause de quelque chose. J'ai passé des mois à me torturer moi-même, puis à me repentir d'absolument tout ce que je pouvais imaginer, puis que je pensais être la cause de mon châtiment. Le problème, c'est qu'après avoir fait le tour de tous mes péchés imaginables, que j'aurais pu faire sans savoir, ma guérison venait toujours pas. Alors, je comprenais plus rien, j'étais tout mêlé. Ça fait que j'ai été consulter les médecins, puis ils m'ont tous dit la même chose. Ils m'ont dit que j'avais une faiblesse naturelle aux poumons, parce que ma mère en avait une, puis que mon père en avait une, puis que plusieurs de mes tantes en avaient une, puis que c'était quelque chose d'héréditaire dans la famille. Bon, ils m'ont dit de faire attention quand j'avais une grippe, puis de faire soigner ça le plus vite possible, si je voulais pas que ça se reproduise, puis que ça s'aggrave. Bon, c'est là que j'ai commencé à remettre en question ma théologie à propos des châtiments de Dieu, puis de la crainte de Dieu. Le message que je fais là est le produit de mes réflexions personnelles à partir de ce moment-là. J'espère que ça va en aider une couple de vous autres qui êtes peut-être en train de marcher présentement dans la même condamnation stupide qui m'a fait tant souffrir moi-même. Aujourd'hui, depuis le temps, ça fait 2 ou 3 bronchites asthmatiques que je fais, mais je fais plus de névrose de culpabilité comme j'en faisais avant, par exemple. Il n'y a plus personne qui va me remettre ça sur le dos, je vous le garantis. Je sais maintenant, à cause de la révélation de Dieu que Jésus-Christ nous a apportée, que je sers un Dieu bon, un Père qui m'aime, et qui ne varge pas sur nous autres à tout moment sans nous avertir comme ça, et qui pousse les gens des escaliers. Hein? Maintenant, c'est pour ça que je dis d'être extrêmement prudent, parce qu'on ne doit pas nourrir l'Église du Nouveau Testament avec la théologie de l'Ancien Testament, parce qu'on va toujours amener un paquet de problèmes. En Hébreux 9:10, nous dit que l'instauration de la Nouvelle Alliance a été appelée avec raison une époque de réformation. Maintenant, qu'est-ce qui a été réformé? Dieu? Ben, on sait bien que non. Il s'agit plus précisément d'une réformation théologique, comme je l'ai dit tantôt. Dieu ne se présente plus de la même façon au monde. L'Évangile a remplacé la loi. Puis Dieu n'a plus la même relation avec son peuple non plus. On n'est plus des simples serviteurs de Dieu, mais on a acquis le statut de fils maintenant, oublions pas ça. Ce qui a changé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses entre nous et Dieu. Maintenant, cette réformation des choses-là dont parle l'Épître aux Hébreux était prévue par Dieu de toute éternité. Par exemple, à l'exemple du temple de Salomon, que Salomon a construit, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, la disposition des chérubins n'était déjà plus la même que celle qu'ils occupaient à l'intérieur du tabernacle que Moïse a construit. C'était pourtant quelque chose que l'homme ne pouvait pas changer à sa guise. Là. On se souvient que Dieu avait dit à Moïse de construire le tabernacle exactement comme il lui avait été montré. Et là qu'à peu près 1000 ans plus tard, Salomon s'amène avec quelque chose de différent. Il change quelque chose dans le temps. Dans le tabernacle de Moïse, les chérubins étaient face à face, les ailes bien serrées au-dessus de l'arche. On a ça en Exode 25, 18, 20. Dans le temple de Salomon, maintenant, les chérubins étaient côte à côte, avec les ailes déployées. On a ça en 2 Chroniques 3, 10 à 13. Moi, je crois pas du tout que Salomon ait mal agi, là. Je pense qu'il s'agissait d'une nouvelle révélation, simplement. À mon avis, ça indiquait que le plan de Dieu suivait une progression, puis un développement. Je pense, personnellement, que les ailes serrées des premiers chérubins figuraient une certaine rigidité de la loi. Tandis que les ailes déployées des seconds chérubins, qui étaient dans le temple de Salomon, figuraient que le peuple devait maintenant essayer de comprendre l'esprit de la loi. Leur faire comprendre que tout n'était pas coulé dans le ciment, comme beaucoup de Juifs le croyaient. Beaucoup de Juifs, d'enseignants de la loi, était très, 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 très rigide à propos de l'Ancien Testament. Mais c'était plus comme ça. Dieu voulait amener un peu plus de gloire, un peu plus de maniabilité, là, puis de joie. Dieu voulait peut-être montrer au peuple qu'il y avait plus de liberté et de joie à le servir, qu'il croyait. C'est peut-être pour ça que Jésus a dit plus tard aux Juifs, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » En d'autres mots, si vous ne comprenez pas l'esprit de la loi, comment allez-vous comprendre l'esprit du christianisme tantôt? Mais disons gloire à Dieu parce que Jésus est vraiment venu changer la théologie. Ça a toujours été dans le plan de Dieu de le faire aussi. Je pense que c'est nous autres qui a eu un blocage ou un mauvais enseignement quelque part. Là. L'Ancien Testament disait, « Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu es tous ceux qui commettent l'iniquité. » Psaume 5, 6. Wow! Le Nouveau Testament dit, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. Luc 15, 2. Maintenant, il est impossible de lire ces deux textes-là, là, un après l'autre, sans éprouver une espèce de sentiment de contradiction, ce qui est parfaitement normal à mon sens. Pourquoi? Parce que nous autres, on essaie toujours d'équilibrer l'Ancien Testament avec le Nouveau. Ce que Dieu nous a jamais demandé de faire, dans le fond. Avez-vous déjà réfléchi à ça? C'est-il écrit quelque part qu'il faut équilibrer les deux testaments? Non, c'est pas écrit nulle part. Les témoins de Jéhovah croient qu'on doit donner autant de crédit doctrinal à l'Ancien Testament qu'au Nouveau. C'est de là, d'ailleurs, que sortent beaucoup de leurs mauvaises doctrines. Moi, je répète encore qu'on doit s'en tenir principalement au Nouveau Testament. En 1 Corinthiens 2, 1, 2, Paul dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Autrement dit, pas d'Ancien Testament. Au lieu de commencer à leur enseigner l'Ancien Testament, puis de leur expliquer ensuite ce qui est encore en vigueur, puis qu'est-ce qu'il n'était plus, Paul a usé de sa cervelle un peu, puis a commencé tout de suite par le Nouveau Testament. C'était des Grecs à Corinthe, de toute façon. L'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre, hein? Nous autres, aujourd'hui, on pense qu'on doit mélanger l'Ancien Testament avec le Nouveau, puis faire une espèce de soupe avec ça, là. Une soupe nouvelle, hein? Mais Dieu ne nous a jamais demandé ça. La révélation ancienne a carrément et simplement été remplacée par la révélation nouvelle. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit clairement, « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. » Hébreux 8, 7. Hébreux 8, 8 maintenant dit aussi, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. » Hébreux 8, 13 dit, « En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » J'espère que c'est bien clair, qu'on n'ira pas dire Jocelyn Girard enseigne quelque chose d'hérétique, quelque chose de nouveau, parce que c'est loin d'être nouveau. C'est peut-être nouveau pour ceux qui ne le savaient pas, mais c'était pas nouveau pour ceux qui ont écrit le Nouveau Testament, c'est ce que je voulais vous le dire. Alors, remarquez bien ça. Tous les faux prophètes utilisent toujours, principalement, l'Ancien Testament pour enseigner leur fausse doctrine. Pourquoi? Parce que le Nouveau Testament est beaucoup plus clair à comprendre, tandis que l'Ancien Testament contient une multitude de versets voilés qui sont capables de tordre facilement. Moi, personnellement, j'en ai connu deux faux prophètes, des vrais de vrais. Là. Il y en avait un qui se prenait pour Élie, et l'autre qui se prenait pour le Christ. Belle équipe. Celui qui se prenait pour le Christ avait été chercher des versets dans le livre d'Ésaïe, je me souviens. Puis, selon lui, là, qui prophétisait que le Christ reviendrait dans la chair, puis pour rien que ça, dans la province de Québec en plus. Et pour lui, le verset était clair. Je le sais, c'est complètement ridicule, mais n'empêche qu'il a réussi à faire au moins une vingtaine de disciples avec ça. Le type est mort il y a plusieurs années maintenant. Tout ça pour dire que celui qui se cramponne après l'Ancien Testament le fait souvent parce qu'il ne veut pas entendre ce que le Nouveau a à dire, puis qu'il va à l'encontre de ce qu'il veut croire. On comprend mieux les paroles de l'apôtre Jean en 1 Jean 2,8 qui dit « Car les ténèbres, ou l'ignorance si vous préférez, se dissipe et la lumière véritable paraît déjà. » En fait, l'apôtre nous parle ici de tous les changements théologiques survenus depuis la venue de Jésus-Christ. Les ténèbres dont parle Jean ici font référence aux ténèbres doctrinales, aux ténèbres, le manque de connaissance, plus précisément, à l'insuffisance de lumière qu'on avait sous l'Ancien Testament à propos de Dieu, ou plutôt de celle qu'on n'avait pas, hein? Les révélations apportées par la Nouvelle Alliance étaient de loin supérieures à celles de l'Ancienne, au moins autant que la lumière est supérieure aux ténèbres, pour employer l'exemple de Jean. Cette comparaison-là entre la lumière et les ténèbres indique des changements très importants. Un des changements majeurs, c'est d'ailleurs le suivant, qui se trouve en 1 Jean 5. La nouvelle que vous avez apprise de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Bon, sauf exception, comme on l'a vu dans Jean 2,8, habituellement dans les Écritures, les ténèbres représentent le mal, dans ses formes les plus diverses. Le fait que Dieu possède pas de mal en lui n'est vraiment pas une nouvelle révélation en soi. L'Ancien Testament était très clair au sujet de la sainteté de Dieu. Alors Jean faisait forcément référence à quelque chose d'autre, là. Sous l'ancienne alliance, l'Écriture semblait enseigner que Dieu était l'auteur des ténèbres et de l'adversité. Par exemple, en Ésaïe 45:7, ça dit « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » Mais ce serait vraiment une grave erreur de s'appuyer sur ce verset-là aujourd'hui. Ce n'est pas du tout ce que Jésus a enseigné à propos de Dieu. Jésus a enseigné à maintes reprises que Dieu n'était pas vraiment l'auteur du mal. En Jean 9, 1 à 3, ça dit, « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, tes disciples qui étaient remplis de la théologie de l'Ancien Testament, lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? » Parce que c'est ça que l'Ancien Testament enseignait. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » La réponse de Jésus était quelque chose de vraiment nouveau, puis qui allait directement à l'encontre de la théologie de l'Ancien Testament, qui disait clairement que c'était Dieu qui rendait aveugle à cause du péché. En Exode, Dieu dit, « Qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? Ce n'est pas moi, l'Éternel. N'est-ce pas moi? » En Deutéronome 28:61, il dit clairement que toute maladie était une malédiction de Dieu à cause du péché. Mais tout au long de son ministère, Jésus s'est toujours efforcé d'enlever de l'esprit des gens que les maladies étaient des châtiments de Dieu, mais que tout ça, ça venait au contraire du diable en réalité. Jésus n'a jamais souscrit à ce concept que toutes les maladies étaient des châtiments de Dieu pour punir l'homme de ses péchés. Lisez les évangiles attentivement, vous allez voir. Sous l'Ancien Testament, on croyait également que les gens riches étaient plus justes que les pauvres, puis que les pauvres étaient plus pécheurs parce qu'ils étaient moins bénis. Plusieurs chefs religieux croyaient que les pauvres étaient spirituellement inférieurs, puis que Dieu ne les bénissait pas parce qu'ils vivaient dans le péché à quelque part, qu'on ne savait pas, mais que Dieu voyait. Mais Jésus est venu, puis il a prononcé cette parole-là. « Heureux, vous qui êtes pauvres. » Wow! Luc 6:20. En d'autres mots, vous êtes bénis. Dieu vous aime, et votre pauvreté n'est pas une malédiction de Dieu. Alors, c'était très différent de l'enseignement de l'Ancien Testament. En suivant cette ligne de pensée-là, Jésus aurait très bien pu dire aussi quelque chose comme « Heureux, vous qui êtes malades maintenant. Hein? » Pourquoi? Eh bien, parce que vous allez avoir un corps glorieux pour l'éternité. Comprenez-vous? Jésus est venu lever la malédiction qui pesait sur son peuple à cause du péché. C'est en Galates 3:13 où ça dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Alors, les questions de la pauvreté, puis de la maladie, puis des malheurs, puis des tribulations, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient plus de Dieu. C'est une malédiction qui a été levée. Un des rares textes du Nouveau Testament qui paraît sembler être une exception à ça se trouve en Jean 5:14, où Jésus dit à un homme qui avait était guéri de paralysie, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Mais on ne doit pas conclure trop vite que Jésus voulait dire que sa maladie avait été due à un châtiment de Dieu. Ça ne dit pas ça, nulle part. On en déduit ça, mais ça ne dit pas ça. Alors, à mon avis, Jésus parlait plutôt et simplement des conséquences naturelles qui seraient attachées à son péché, puis on ne sait pas c'est quoi, là. Rappelons-nous qu'en Luc 13:10-16, Jésus nous dit que l'infirmité n'était pas l'œuvre de Dieu, mais de Satan, la femme qui était courbée. Là. Jésus a très souvent dit que la maladie était due à une activité satanique. Jésus a dit lui-même, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » En Jean 10:10. On peut lire aussi Actes 10:38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Vous pourrez lire aussi Luc 9:1 et Luc 11:14. Il y en a une multitude de versets comme ça. C'est pas Dieu qui frappe les hommes, il ne fait que le permettre dans certaines conditions. Si l'Ancien Testament dit que Dieu est l'auteur de ces choses-là, le Nouveau Testament souligne que ceux qui ont acquis en Christ le statut de fils, par leur justification, ont été libérés de cette crainte qui leur faisait s'imaginer qu'ils étaient frappés par Dieu quand ils devenaient malades ou pauvres, par exemple. Je crois que c'est une excellente nouvelle, que l'Évangile, je crois que c'est une bonne nouvelle, pas pour rien, entre autres à cause de ça aussi. Bon, en 2 Samuel 24:1, ça dit « La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il, Dieu, excita David contre eux en disant « Va faire le dénombrement ». Pourtant, en Jacques 1:13 à 17, ça dit que Dieu ne tente lui-même personne. On se gratte la tête quand on lit ces deux versets-là, un à la suite de l'autre. On voit ici encore un changement théologique. Simplement, il faut accepter ça, que ça l'a changé. Maintenant, il y a une place pour la crainte de Dieu, même sous le Nouveau Testament, je ne dis pas le contraire. Mais elle n'est pas pour n'importe qui, elle n'est pas pour tout le monde. Elle n'est pas pour tous les chrétiens. Hébreux 12, 18 à 29 nous dit, c'est un long texte, mais je crois qu'il faut le lire, il faut le lire tout, vous allez comprendre mieux. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Autrement dit, ils étaient morts de peur. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant ». Mais vous, chrétiens du Nouveau Testament, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux qui refusèrent d'entendre, sous l'Ancien Testament, celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous, chrétiens de Nouvelle Alliance, si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Bon, j'explique tout ça. Les croyants jouissent tous de la grâce de Dieu, puis ils ont tous part au Saint-Esprit. Ils appartiennent à l'Église, puis ils possèdent une connaissance de Dieu que les patriarches et les gens de l'Ancien Testament, puis même les prophètes, ne possédaient même pas. Celui qui possède une plus grande lumière se voit attribuer automatiquement une plus grande responsabilité. On sait tout ça. La crainte de Dieu redouble donc de raison d'être pour le croyant rebelle. Que dit bien le croyant rebelle? Sous l'Ancienne Alliance, les Hébreux dans le désert ont eu l'immense privilège que Dieu ait fait nous autres son peuple. Et sous le Nouveau Testament, Dieu nous accorde un privilège encore plus grand, celui d'être, de devenir ses enfants. Alors si on méprise ce grand honneur par une conduite indigne, puis une attitude ingrate, impudente et coupable et rebelle, on va sûrement avoir bien plus de raisons de craindre Dieu qu'avant. C'est pour ça que la crainte de Dieu est quelquefois reprise par certains écrivains du Nouveau Testament. Mais si on n'est pas rebelle, si on pratique la confession, puis qu'on sert Dieu par amour et par reconnaissance, la crainte de Dieu n'a plus de raison d'être dans notre vie. Il faut simplement comprendre qu'être libre de la crainte ne veut pas dire qu'on est libre de pécher, c'est tout. Si on abandonne la crainte dans le but de mieux marcher selon la chair, on fait que se condamner soi-même, puis se rendre encore plus éligible à la crainte et au châtiment de Dieu. Même le Nouveau Testament a fait de très sérieuses menaces à ceux qui pêchent impudemment. En Hébreux 10, 26-29, j'ai hésité là parce qu'il m'est venu une pensée que j'aimerais ajouter. Comment un chrétien peut-il en venir à pêcher impudemment comme ça? Le texte ne le dit pas. Ce cheminement peut être très long, il peut durer des années. Mais un chrétien peut déchoir, son cœur peut changer. La Bible est très claire, faites une étude vous-même là-dessus. À travers la Bible, vous allez voir que le cœur d'un chrétien véritable peut changer, se dégénérer. Mettons les Hébreux 10, 26, 29. Car si nous, chrétiens, péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera, qui? Les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne? Celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel elle a été sanctifiée, et qui aura, par-dessus tout ça et malgré tout ça, outragé l'Esprit de la grâce par ses péchés rebelles, volontaires et impudents. Alors on voit ici, clairement encore, quel genre de personne l'auteur de l'Épître aux Hébreux exhorte à la crainte. Quand le Nouveau Testament parle de la crainte de Dieu, c'est pour avertir ceux, ou prévenir, hein, ceux qui sont rétrogradés de cœur, puis qui sont arrivés à mépriser la grâce de Dieu. Je répète encore que la crainte de Dieu ne s'adresse pas aux chrétiens qui aiment Dieu, puis qui fait de son mieux pour suivre Jésus-Christ, malgré des faiblesses. Dieu peut châtier seulement les croyants qui exploitent la grâce de Dieu en péchant avec effronterie et impudence, et avec non-repentance, un cœur non-repentant. On en voit un exemple encore en 1 Corinthiens 11, 29-32, où certains croyants prenaient la Sainte-Seine d'une façon tout à fait irrespectueuse, en mangeant puis en s'enivrant comme des païens durant la réunion. Mais le chrétien du Nouveau Testament qui a accepté le Christ par amour n'a plus à craindre les châtiments de Dieu quand il pêche. Ce qu'il a à craindre en réalité, c'est la dégénérescence de son propre cœur. Il a à craindre que son cœur s'endurcisse au péché puis qu'il en vienne à ressembler aux Israélites rebelles et méchants. Arrivé à ce point-là, là, il peut avoir à craindre les châtiments de Dieu. C'est comme les Corinthiens de tantôt qui s'empiffraient puis qui se saoulaient pendant qu'ils prenaient la Sainte-Seine. Ils étaient rétrogradés. Puis c'était endurci jusqu'à perdre complètement le respect des choses saintes. C'est pour ça que Dieu les a châtiés comme il le faisait sous la loi. Dieu ne peut que châtier que les endurcis devenus orgueilleux et rebelles. Retenez juste ça de mon message, puis d'en avoir le principal. Enseigner que des chrétiens normaux doivent craindre les châtiments de Dieu quand ils tombent dans un péché, ça va seulement miner leur relation avec Dieu. Ça va les écraser, les culpabiliser à l'excès. Ça va les faire marcher sous le joug de la loi, puis les rendre leur vie chrétienne absolument misérable. Alors prenons bien garde, si on est pasteur ou enseignant, quelque chose d'autre, quand on enseigne la crainte de Dieu, parce que ça s'applique pas à n'importe qui. La loi est bonne, nous dit Paul, mais il faut en faire un usage légitime. Sachant que la loi est faite pour les méchants, pour les rebelles, etc., etc. L'amour de Dieu pour lui et pour le chrétien est naturellement inspiré à son cœur par le Saint-Esprit qui vient l'habiter, qui est venu l'habiter. Chez le nouveau converti, l'amour de Dieu est généralement naturel, mais avec les années, il peut arriver qu'il s'installe un refroidissement dans son cœur à l'égard de son amour pour Dieu. Si son cœur dégénère, abandonne l'amour de Dieu, puis qu'il s'endurcisse dans la désobéissance, il retombe alors sous la juridiction de la crainte de Dieu. Là, ça va être le temps que quelqu'un aille voir ce type-là, puis lui parler de la crainte sanctifiante de Dieu, puis d'un possible et éventuel courroux de Dieu. J'espère que je suis bien clair. La crainte de Dieu n'est pas pour tous les croyants, mais uniquement pour ceux qui ont commencé à commettre le péché avec une très mauvaise attitude, puis qui s'en repentent pas, qui ont décidé volontairement d'y persévérer. Puis même si on en est rendu là, il faut se rappeler que les châtiments de Dieu sont tout aussi motivés par son amour que son pardon. Dieu ne châtie pas pour nous faire mourir, mais au contraire pour nous faire revivre, si c'est possible. Les péchés commis avec impudence, avec effronterie, les péchés non confessés, non repentis, peuvent donner accès, dans certains cas, à la maladie et même la mort. En voici un exemple dans 1 Corinthiens 5:5. Ça nous parle d'un chrétien qui était descendu tellement bas, qui était à côté avec la femme de son propre père. Il allait aux réunions de l'église quand même, puis il se repentait même pas de ça. Tout était normal pour lui. Paul dit à l'Église qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de sa chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Pour Dieu, la sainteté du croyant est même plus importante que sa santé. Les châtiments de Dieu sont évidemment pas toujours aussi sévères, là. C'est pas toujours la mort qui nous suspend au-dessus de la tête. Il s'agit ici d'un cas pas mal extrême, là. On a une idée quand même. Toute discipline du Seigneur est faite aux croyants non repentants. C'est en Matthieu 18, 15 à 17, quand Jésus a parlé de la mise en discipline de quelqu'un dans l'Église, il a fait ça très clair. Si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il ne t'écoute pas, on voit la rébellion. Prends avec toi une ou deux personnes. S'il refuse de les écouter, on voit encore la rébellion. Dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, encore la rébellion, de l'endurcissement. Qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. On le discipline, c'est tout. Alors, on a ici la description d'un cœur endurci et rebelle. J'espère que c'est clair. En 1 Corinthiens 10, 12, Paul dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Il ne s'agit pas de tomber dans le péché, mais de tomber mort. Le contexte est clair là-dessus. Paul rappelle la crainte de Dieu à ceux qui en étaient venus à abuser de la grâce. Regardez bien le contexte, puis Paul ne parle pas aux chrétiens ordinaires, mais à des chrétiens qui avaient une conduite volontairement rétrograde et indigne. Les Corinthiens agissaient de façon grossière dans l'Église. Il redit la même chose aux croyants d'Éphèse en Éphésiens 5, 6, que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur qui? Sur les fils de la rébellion. Dieu excuse les péchés commis par faiblesse, mais pas les péchés commis volontairement par impudence, insolence, effronterie, arrogance, audace, orgueil, irrespect. Comprenez-vous? Ne demandez-moi pas d'autres synonymes, là, moi j'ai épuisé mon dictionnaire complètement. Bon, psaume 31-24 nous dit que l'Éternel punit sévèrement les orgueilleux, c'est-à-dire les non-repentants, ceux qui en sont venus à rire de leurs péchés. Alors on voit que la crainte de Dieu est encore recommandée sous la Nouvelle Alliance à certains endroits, mais elle est destinée à tempérer ceux qui ont tendance à pécher avec des dispositions vraiment coupables, de plus en plus coupables. Pour le chrétien ordinaire, Dieu ne le traite pas selon ses péchés, il ne le punit pas selon ses iniquités. Psaume 103, 10. Le chrétien qui aime Dieu et qui n'est pas endurci de cœur n'a pas à craindre les châtiments de Dieu, même s'il lui arrivait souvent de tomber dans le même péché. C'est ça la vérité. Il y a une importante différence entre celui qui pêche souvent parce qu'il a une faiblesse et celui qui pêche beaucoup parce qu'il est rétrograde de négligence et qui ne se répand même plus quand il pêche. Dieu n'est pas idiot puis il est parfaitement capable de faire la différence. Vous inquiétez pas de ça. La relation que Dieu avait avec l'homme a changé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Dieu a été un peu comme un homme là qui aurait capturé un cheval sauvage par la force, puis qu'il l'avait apprivoisé jusqu'à ce que l'animal se mette à l'aimer, puis à le servir volontairement. Ce qui faisait obéir les gens sous l'Ancienne Alliance, c'était la crainte du bâton. C'est aussi simple que ça. Sous la Nouvelle Alliance, ce qui fait obéir les chrétiens, c'est la grâce et l'amour. La Nouvelle Alliance rend l'homme esclave de l'amour de Dieu, prisonnier de la grâce et serviteur par reconnaissance. Le croyant obéit maintenant de plein gré et de bon cœur. Il n'a plus à craindre le bâton. Il n'obéit plus par la crainte du bâton. Il doit plus être comme ça. Des fois, en tant que pasteur, on peut tellement vouloir que l'Église soit sainte ou que l'Église avance plus vite qu'elle avance, qu'on peut se mettre à enseigner la crainte de Dieu d'une façon exagérée, puis faire beaucoup de mal, beaucoup plus de mal que de bien à cette Église-là. Faire revenir les chrétiens du Nouveau Testament à la crainte de l'Ancien Testament, c'est pas les faire avancer, mes amis, c'est les faire reculer. À force de leur parler de la crainte, les gens vont peut-être avoir l'air plus sains dans leur conduite, mais vous allez leur enlever la joie de servir Dieu de bon cœur, par exemple. Pensez-y. La crainte de Dieu n'a pas pour rôle de motiver les croyants à marcher pour Dieu, mais pour motiver les rebelles à cesser d'être rebelles. Comprenez-vous la différence? La crainte ne doit jamais être une motivation pour le croyant. La crainte est seulement faite pour briser la rébellion du rebelle. Pour les croyants qui aiment Dieu, la crainte de Dieu est une contrainte absolument inutile et même nuisible à son développement spirituel. La crainte de Dieu est là pour nous dire de garder notre cœur pur, puis droit devant Dieu. Si le croyant se met à séduire lui-même, puis à justifier le péché dans sa vie, là il va devoir commencer à craindre Dieu. Mais tant que t'aimes Dieu, tant que t'as pas commencé à pécher par arrogance et rébellion, t'as pas d'affaire à craindre Dieu. La crainte de Dieu est pour le rebelle, je le répète pour la centième fois. Je sais que ça fait une couple de fois que je le répète, mais je veux vraiment que cette vérité-là soit imprimée, là, pour toujours dans votre esprit. La motivation par excellence de servir Dieu, c'est l'amour qu'on a pour lui, puis le désir volontaire de lui être agréable, d'être saint. C'est l'amour qu'un enfant a envers son père qui va faire que cet enfant-là va avoir le désir de lui ressembler, d'aimer ce qu'il aime, puis de détester ce que son père déteste. L'amour de Dieu est donc la seule base réelle d'une bonne relation et d'un bon service pour Dieu. Pourquoi, sous l'Ancien Testament, la crainte de Dieu était à l'avant-plan puis qu'elle est à l'arrière-plan sur le Nouveau Testament. Bien parce que le but de Dieu n'est pas de nous faire obéir, mais de nous amener à choisir de lui obéir. Celui qui n'a pas compris ça ne comprend simplement pas encore le christianisme. Si le Nouveau Testament reprend la crainte de Dieu à certains endroits, c'est pour prévenir le croyant qu'il est toujours susceptible de se mettre à se laisser aller dans le relâchement, l'endurcissement et la rébellion. Donc à se remettre sous la loi, puis à être traité comme tel par Dieu. C'est Jerry Bridges qui a écrit « La crainte des conséquences peut nous garder de commettre des actions extérieures comme le meurtre ou l'adultère, mais seulement l'amour nous gardera de commettre le meurtre ou l'adultère dans nos cœurs. » Fin de citation. Amen à ça. La crainte de Dieu peut contribuer à l'abandon du péché, mais l'enlèvera malheureusement pas dans le cœur. La sanctification ne devrait pas être quelque chose que le croyant exécute avec le proverbial revolver appuyé sur la tempe. C'est pourtant ce que la crainte de Dieu enseignait aux gens sous l'Ancien Testament. Mais en Jean 14, 15, Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » La sanctification est une question d'amour pour Dieu maintenant. Le croyant doit d'abord s'abstenir du péché, premièrement parce qu'il ne veut pas blesser le cœur de Dieu. C'est ça qui devrait être notre motivation. Alors l'abandon de la crainte sous l'ancienne alliance, sous la nouvelle alliance, n'est pas supposé conduire les croyants au relâchement spirituellement du tout, comme le croient les légalistes, mais au contraire, ça conduit le croyant dans une sainteté et puis une justice toujours plus authentique, au contraire. Sous l'ancienne alliance, que les gens aient péché avec des dispositions plus coupables que d'autres n'avait aucune importance. Il n'y avait pas d'exception. Si quelqu'un péchait, il tombait sous la malédiction de la loi, puis il courait le risque de tomber sous la colère de Dieu. Je répète Galates 3.13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Le sentiment d'obligation de servir Dieu et de se sanctifier par crainte fait partie de la malédiction de la loi. J'espère qu'on réalise bien ça. Lisez Deutéronome 28 au complet. Vous allez voir, la malédiction de la loi est clairement stipulée. En lisant ce chapitre-là, vous allez réaliser que la sanctification était à 80% au moins, motivée par la crainte de subir des représailles de la part de Dieu si on ne faisait pas ce qui était écrit là. Mais heureusement que ça ne marche plus comme ça. Maintenant qu'on a été dégagé de la malédiction de la loi, dit l'Écriture, l'idée que nos maladies, par exemple, soient des punitions de Dieu, ou nos accidents, ou nos malheurs, des punitions de Dieu pour nos péchés, est tout à fait révolue. Sachant que la malédiction de la loi décrite en Deutéronome 28 inclut très clairement la maladie, puis que Christ est devenu malédiction pour nous, ça veut dire que le croyant qui aime Dieu n'a plus à craindre ce genre de conséquences-là. C'est pas une bonne nouvelle, ça? En Romains 6, 7, Paul a écrit « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. » Celui qui obéit de cœur a forcément abandonné l'obéissance par la crainte, parce que les deux peuvent simplement pas fonctionner ensemble. Quand je vous dis d'abandonner la crainte, je vous dis pas de pécher sans crainte. C'est pour vous amener au contraire à avoir une motivation de vous sanctifier qui est de loin supérieure. Le Nouveau Testament jette beaucoup de lumière sur cette nouvelle motivation. Le croyant s'abstient pas du péché parce qu'il le faut, ou parce qu'il n'a pas le droit de pécher, mais parce qu'il veut plaire à Dieu puis lui ressembler. Comprenez-vous? Mieux vaut la crainte que le péché, évidemment, mais mieux vaut l'amour que la crainte. C'est une motivation qui est selon le cœur de Dieu. La crainte est pour les esclaves, l'amour pour les fils. Moi, dans mes efforts pour enseigner le sens des responsabilités à ma petite fille une fois, quand elle avait 3 ans, j'avais coutume de lui faire éteindre le poste de télévision quand elle ne voulait plus le regarder, quand elle avait terminé. D'habitude, quand je lui demandais d'aller éteindre la TV, ça se passait très bien, mais un jour, elle a décidé de ne pas obéir. C'est comme ça arrive dans les meilleures familles. Hein? Après lui avoir demandé d'aller éteindre la TV, elle me regarde dans les yeux, elle durcit sa petite figure, puis elle ne bougeait pas. Là, je réalisais, bon, on a un problème. Je lui ai dit, Sarah, va éteindre le poste de TV ou papa va être obligé de te donner une tape. Elle ne bougeait pas. Sa petite face restait endurcie. Mais là, au lieu de la punir, j'ai eu l'idée de recourir à une autre méthode. Là, j'ai pris ma belle petite voix douce, puis je lui ai dit, Sarah, si tu vas éteindre la TV, papa va être fier de toi, puis il va te donner un beau bec. Elle a levé sa tête, puis elle m'a regardé avec ses petits yeux qui voulaient dire, bon, voilà quelque chose de motivant. Puis elle est montée en haut tout de suite, puis elle a éteint la TV sans regimber. Je ne vous dis pas que c'est une recette magique, parce que honnêtement, ça n'a pas marché à tous les coups, cette affaire-là. Mais en réfléchissant à ce qui venait d'arriver ce jour-là, je me suis dit, tiens, voilà exactement la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Sous l'Ancienne Alliance, les hommes obéissaient par la crainte de la punition, mais les croyants de la Nouvelle Alliance obéissent de cœur, nous dit Romains 6, 7, parce qu'ils aiment Dieu. 1 Jean 4, 17 dit, « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. » On voit partout dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, que la crainte de Dieu était destinée à produire l'obéissance. Mais si le croyant en arrive un jour à obéir pleinement au Seigneur, uniquement sur la base de l'amour et du désir de ressembler à Dieu, comme le dit notre texte, la crainte perd automatiquement sa raison d'être. Je ne sais pas comment on l'aime, la sainteté, mais je peux vous dire que Dieu l'aime, lui. Puis si on ne partage pas cette même affection-là, on devrait certainement se poser des questions sur notre état spirituel. On doit aimer la sainteté autant que Dieu. Si on aime Dieu, on va aimer la sainteté aussi. Celui qui dit aimer Dieu, puis qui n'aime pas la sainteté intérieure, puis l'obéissance volontaire, est un rétrograde, ou simplement un inconverti. C'est aussi simple que ça, c'est un ou c'est l'autre. Soyons le plus sensibles possible à l'action de la grâce de Dieu en nous. Reconnaissons la gentille main de la grâce sur notre cou, puis qui nous invite à la docilité. La définition du mot docilité, c'est disposition à céder, à obéir. Comportement soumis, tendance à obéir. Point. La douce voix de la colombe nous appelle à faire courber notre volonté devant celle de Dieu, puis de la faire volontairement. Le rôle de la grâce est de nous aider à vivre une vie d'obéissance de plus en plus volontaire. Seule notre douceur puis notre soumission volontaire devant les paroles de Jésus est la marque d'une authentique spiritualité. L'apôtre Jean écrit, « Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » 1 Jean 2, 15. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Si Jean avait vécu sous l'Ancien Testament puis avait été prophète, il aurait dit quelque chose comme, « Celui qui aime le monde n'a pas la crainte de Dieu. » Mais on voit que l'emphase est mise ici sur l'amour de Dieu maintenant. Puis on retrouve ça à la grandeur du Nouveau Testament. C'est en Luc 1, 74-75, avant même la naissance du Christ, Zacharie a prophétisé quelque chose de bien intéressant à propos de la Nouvelle Alliance que Jésus allait inaugurer, puis de ses changements. Il a prophétisé que le Christ allait, je cite, « nous permettre de servir Dieu sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. » Marquez les mots « sans crainte ». Est-ce que le chrétien qui aime le Seigneur, je dis bien qui aime le Seigneur, doit abandonner la crainte de Dieu? Sûr que oui. En fait, s'il aime Dieu, il l'a déjà abandonné en réalité. Réalisez-vous ça? Les croyants ne doivent pas abandonner la crainte de Dieu dans le but de mieux pouvoir se relâcher, c'est évident, mais dans le but de mieux obéir, de donner une meilleure qualité à notre obéissance. Obéir d'une façon qui soit encore plus agréable à Dieu. Bon, admettons que vous êtes parent, puis que vous demandiez à votre petit gars de 10 ans là, de sortir les poubelles. Aimeriez-vous mieux qu'il la fasse parce qu'il veut vous faire plaisir ou parce qu'il a peur des conséquences que vous pouvez lui donner s'il refusait de le faire? On voit souvent ça dans les familles où les pères sont trop autoritaires. Les enfants leur obéissent, mais seulement en surface. Si Dieu a remplacé l'ancienne alliance par une nouvelle, c'était parce que la première n'était pas parfaite, nous dit l'Écriture. C'est pour ça que l'apôtre Jean a écrit que celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. En fait, c'est la relation que l'homme entretenait avec Dieu qui était pas parfaite. Mais la nouvelle alliance est venue changer ça en nous. Dans une large mesure, la crainte empêche d'aimer. Réalisez-vous ça. La crainte entrave l'amour. Plus il y a de crainte, moins il y a d'amour. Puis plus il y a d'amour, ben moins il y a de crainte. C'est mathématique. Les croyants sont trop souvent culpabilisés dans les églises par des exhortations maladroites. Ou alors ils se culpabilisent eux-mêmes parce qu'ils ont une vision de Dieu qui correspond plus à celle de l'Ancien Testament qu'au Nouveau. L'amour que Dieu nous porte maintenant en Jésus-Christ va agir comme un baume sur la blessure morale de cette crainte culpabilisante-là qu'on nous a fait peut-être subir dans le passé. Quand un enseignant quelconque veut faire passer une doctrine qui sort de l'Ancien Testament à son Église, il cite toujours cette parole-là de Jésus.
Je ne suis pas venu abolir la loi. Hein? Mais on oublie souvent de citer la suite du verset qui dit « Pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Puis Jésus a dit plus tard sur la croix que tout était maintenant accompli. Oui, il y a beaucoup de choses édifiantes et instructives dans l'Ancien Testament, mais je pense qu'il faut d'abord être affermi par la grâce qui est en Jésus-Christ avant de pouvoir discerner les choses qu'on doit garder puis qu'est-ce qu'on doit carrément rejeter. En Matthieu 5, 38-39, Jésus a dit « Vous avez appris qu'il a été dit, mais moi, je vous dis autre chose. Hein? » C'est ma conviction profonde qu'un nouveau converti devrait même pas lire l'Ancien Testament avant 3 ou 4 ans de vie chrétienne, puis encore. Il y a une multitude de voix qui nous entourent aujourd'hui, soit par la radio, la télévision, les messages sur cassette, les livres de toutes sortes, les sermons. Il est si facile d'être induit en erreur à ce propos-là. On comprend mieux pourquoi l'apôtre Jacques a dit, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Beaucoup de sectes religieuses utilisent l'Ancien Testament de la même façon que le Nouveau, et ils vous mélangent tout ça comme si c'était du pareil au même, puis ils arrivent avec toutes sortes de doctrines bizarres. Mais savez tirer des doctrines de l'Ancien Testament, c'est toujours très dangereux, vous savez. Le type vous sort un verset de l'Ancien Testament pour appuyer ce qu'il dit, alors vous dites, ouais, c'est dans la Bible, alors ça doit être vrai. Hein? Je m'excuse, mais prouver une doctrine avec des versets de l'Ancien Testament, c'est pas la prouver du tout. C'est même la rendre suspecte. On peut prendre des versets de l'Ancien Testament pour appuyer ce qu'on enseigne seulement, si ce qu'on enseigne est déjà appuyé par des textes clairs tirés du Nouveau Testament. Comprenez-vous? Pour finir, eh bien, soyons reconnaissants de l'amour de Dieu. Sachons apprécier la nouvelle alliance et ses privilèges. Rassurons nos cœurs devant Dieu. Laissons pas nos sentiments d'indignité de nous-mêmes nous priver de la grâce de Dieu. Laissez pas personne non plus vous écraser avec l'Ancien Testament. Puis des obligations, là. Puis une fausse crainte. Je termine avec Romains 8, 15, qui nous dit « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Amen.